ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023. Il fait toujours très très beau dans le Beaujolais. On a un ciel bleu, des températures autour de 26 degrés. C'est une belle journée d'été un peu avant l'heure. Et dans notre émission, on va prendre soin de soi. Aujourd'hui, on va retrouver notre diététicienne et nutritionniste Charline Simian. On a rendez-vous avec le prof Patrick pour parler économie et société. S'instruire, se cultiver, c'est aussi prendre soin de soi. Et pour commencer avec notre invité, on va parler de yoga aujourd'hui. Une pratique qui est venue d'Inde, de plus en plus présente en Occident. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on le pratique? Qu'est-ce que c'est, un sport ou une philosophie? On en parle avec Sophie Moissonnier et on parlera aussi de l'espace qu'elle a créé il y a une dizaine d'années, Yogatitude, et comment est-ce qu'on y pratique le yoga au cœur de Villefranche. Avant ça, notre émission commence comme chaque jour en musique. Je n'y connais absolument rien en yoga, mais je crois qu'on a une position qui s'appelle la salutation au soleil. Voici donc un morceau qui s'appelle Soleil, soleil. On est ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Chavire mon cœur, engourdi du simple plaisir d'être à ne rien faire, à scruter des heures, assis à ma fenêtre. Un rayon passe et tout vient à briller, et tout petit rien. Soleil, soleil, quand tu t'invites aux merveilles à ma fenêtre. Soleil, soleil, soudain la poussière se transforme en paillateur.
Qué bonito, bonito estar a no hacer nada, abrir la ventana, quedarse en la cama y dejar al sol regarme como una flor, llevándose a mí. Soleil, soleil, quand tu t'invites aux merveilles à ma fenêtre. Soleil, soleil, soudain la poussière se transforme en paillettes.
Soleil, soleil, c'était Voyou et November Ultra qui chantaient ce morceau.
Ensemble sur Calade.
Est-ce qu'il y a vraiment des salutations au soleil dans le yoga, Sophie Moissonnier?
Oui.
Oui, bonjour, vous êtes notre invitée.
Bonjour, merci de m'inviter. Oui, il y a autant de salutations au soleil qu'il peut y avoir de profs de yoga.
Ouais.
Chacun sa déclinaison.
Alors vous, vous êtes prof de yoga?
Oui.
Vous n'avez pas fait que ça dans la vie. Est-ce qu'on peut retracer un peu votre parcours? Je crois que vous étiez ingénieur avant de...
Oui, j'étais ingénieur dans la climatisation.
Ouais.
Et donc, je vendais des solutions de filtration dans l'industrie, les hôpitaux, etc. J'ai travaillé pour plusieurs sociétés.
Et comment est-ce que vous avez rencontré, découvert le yoga ?
Alors, le yoga, je l'ai découvert à l'âge de 17 ans.
D'accord. Donc, en même temps que vous faisiez, que vous étiez ingénieur, vous aviez cette pratique
peut-être à j'ai toujours pratiqué le yoga.
Ok. Et quand est-ce que vous avez décidé d'en faire votre métier, du coup, que vous avez eu le déclic
Alors, en fait, à 50 ans, parce que j'en ai 60 cette année, à 50 ans, j'ai eu un passage un petit peu difficile au niveau professionnel. Et j'ai une amie qui s'était engagée dans la formation de prof de yoga. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, non pas pour enseigner, mais plutôt pour dépasser un peu mes difficultés. J'avais besoin vraiment de plonger dans quelque chose qui me tienne, vraiment, parce que j'arrivais pas à prendre de recul par rapport à ma situation professionnelle. Et du coup, ça a été vraiment du gagnant-gagnant, parce que j'ai réussi à... d'une part, dépasser ces difficultés-là. Et ensuite, cela même, ça a conduit au fait... Déjà, je n'avais pas du tout imaginé que je pourrais un jour enseigner le yoga. Parce que déjà, j'ai toujours été très complexée par ma voix. On me disait toujours que j'avais une voix très forte. La première fois que j'ai enseigné, on m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez une voix douce ?» J'ai dit « Mais de qui vous parlez ?» Je n'imagine pas. Mais en fait, si je comprends maintenant, c'est parce que en fait, on se transforme quand on pratique le yoga, et plus on le pratique, parce que le yoga, c'est avant tout quelque chose qui est assez exigeant, c'est une discipline réellement. Ouais. Et plus on le pratique, et plus on se transforme. Et effectivement, j'étais une personne beaucoup plus posée, beaucoup moins réactive. Et voilà, quoi. Donc, on transforme sa vie. Hein. Chaque difficulté est une opportunité. Voilà.
Alors, vous avez commencé à définir un petit peu le yoga. Moi, je ne le connais pas du tout. J'allais dire pas très bien, mais vraiment, j'ai entendu parler des gens me dire je fais du yoga. J'ai vu ce qu'on peut en voir dans les films avec des positions, etc. J'ai des idées, des stéréotypes, des clichés dans la tête sur le yoga. Mais qu'est-ce que c'est exactement, d'où ça vient? Je ne sais pas.
Alors, qu'est-ce que c'est déjà, donc, j'insiste sur le mot discipline. Parce que ça veut dire que c'est pas le coup de baguette magique. Hein, non, le yoga, ça implique un engagement vis-à-vis de soi-même. Et en général, c'est bien d'avoir un prof de yoga. Parce que même si aujourd'hui on fait beaucoup du yoga sur des vidéos, pour moi, ce n'est qu'un palliatif. Et c'est avant tout une transmission. Voilà, on transmet le yoga, parce que soi-même, on l'a digéré et on en a fait son propre... voilà. Donc une discipline, ensuite une discipline psychocorporelle, parce que ce n'est pas un sport.
Ouais, pour moi c'est une pratique physique.
C'est une pratique physique, et j'en veux dire physique, mais psychique aussi. Ouais. C'est les deux en même temps, et j'aurais envie de dire, mais bien sûr avec beaucoup de prudence, spirituelle. Parce que ça nous ramène aussi à... Ça redonne du sens. Pour moi, la spiritualité, c'est donner du sens à ce que l'on fait. Et aujourd'hui, le yoga, je pense, a pris pas mal d'essor parce que beaucoup de choses perdent leur sens.
Il y a un lien avec la méditation ?
Oui, évident. Parce qu'en fait, le but du yoga, c'est la méditation.
D'accord, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la méditation, ce n'est pas une activité, c'est la cessation des activités.
Ouais.
Donc, pour cesser ces activités, eh bien, il faut se préparer, parce que vous ne pouvez pas arrêter une voiture qui roule à 200 km/h d'un seul coup. Ça, c'est notre mental, vous voyez ? C'est-à-dire que, en fait, on se prépare progressivement à l'arrêt des activités du mental. C'est ça, la méditation.
Okay.
Il n'y a plus rien à faire. On n'enseigne pas la méditation. La méditation, c'est...
Ça se pratique.
Voilà.
Et alors concrètement, un cours de yoga, ou pas forcément un cours, mais pratiquer le yoga, ça ressemble à quoi ?
Alors, pour moi, une séance de yoga doit commencer par un sas, c'est-à-dire qu'on sort de la vie turbulente, on va dire, et j'amène les élèves à leur souffle, parce que finalement, le souffle, c'est l'essentiel.
Ouais.
C'est revenir à l'essentiel. Et c'est tellement simple. On peut apprendre ça, dire ça à un enfant, on peut dire ça à une personne en fin de vie. Mmh. Revenir à son souffle, sentir le souffle dans les narines.
Ouais.
Donc quoi de plus simple ? Bon, quand on est le nez bouché, c'est plus embêtant.
Ça, c'est les aléas de la vie, ça parfois arrive. L'été, parfois l'hiver.
Oui, mais en dehors de cela, pour moi, un début de séance, c'est déjà revenir à l'essentiel, à son souffle, à ses sensations.
Ok. Se recentrer sur soi.
Voilà, par les sensations. Sensations olfactives, sensations auditives. On peut par exemple, en début de séance, fermer les paupières et puis juste écouter les petits bruits lointains, par exemple, se concentrer là-dessus. Voilà, ça, moi j'appelle ça vider les poubelles du mental.
Ok. Et donc ça permet de laisser derrière soi tous les petits tracas qu'on peut avoir dans la tête, etc.
On les laisse pas derrière soi parce qu'ils reviennent régulièrement. Mais on crée de l'espace à l'intérieur.
Ok.
Voilà. On remplace ce trop-plein par de l'espace disponible.
D'accord. Bon, moi, j'avais l'idée en tête que le yoga, c'était faire des positions difficiles, des étirements, etc. Vous ne m'en avez toujours pas parlé.
Alors, il y a plusieurs portes d'entrée. On peut effectivement commencer le yoga par des postures difficiles, surtout quand on est athlétique.
Ouais.
Ça serait dommage de ne pas nourrir ce corps qui a besoin de s'exprimer.
Ouais.
Et par conséquent, il y a plusieurs types de yoga. La porte d'entrée des athlètes, ça sera peut-être un yoga dynamique, un vinyasa, où on va enchaîner des postures difficiles. Mais attention, souvent, je constate que les sportifs, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, respirent mal.
Ah, pourtant, c'est l'essentiel. Bah, c'est juste
beaucoup de coureurs à pied, par exemple, ils respirent juste d'en haut, comme ça. Ils ne savent pas respirer par le ventre. C'est tout bloqué. Ils ont des abdos tellement costauds que ça ne bouge pas ici. Voilà. Ouais. C'est juste là. Alors, c'est très bien pour la discipline, mais ce que je veux dire, on n'est pas que fait pour courir. On est aussi fait pour aimer. On est aussi fait pour ressentir des belles choses autour de soi. Voilà. Mm-hmm. Notre corps, c'est pas un esclave. Certains sportifs, je dis pas tous, hein, y a des sportifs que j'adore. Moi-même, je pratique beaucoup le sport. Mais on fait de leur corps un esclave.
Ouais.
Vous voyez ? Pour la performance. Voilà.
Et donc le yoga, ça, c'est créer un lien avec son corps, entre le mental et le corps ?
Voilà. Yoga, ça vient de la racine yug, qui veut dire relier. Relier le corps et le mental.
Bon, on reprend le cours qu'on avait commencé. Vous nous avez dit, il y a un petit sas au début, où on se concentre sur notre respiration.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Alors ensuite, une fois qu'on a pris conscience vraiment de sa respiration naturelle, alors, on va faire des exercices qui vont nous permettre d'augmenter nos capacités respiratoires. Donc, développer notre masse musculaire, notamment les muscles thoraciques, les muscles abdominaux. Parce que si on vide bien nos poumons, on peut mieux les remplir. Et donc, on va travailler aussi bien l'expiration, mais également l'inspiration. Et cela à travers des postures, différentes postures, statiques ou bien... dans le mouvement. La salutation au soleil, c'est un enchaînement. On est dans le mouvement. On essaye, dans notre pratique, d'être de plus en plus dans la fluidité. Et pour ça, moi, je recommande la simplicité. Faire des exercices simples. Voilà, quand on commence le yoga. Mmh. Et même quand on est avancé. La simplicité, c'est ce qui permet justement d'installer un souffle fluide. Quand le souffle est fluide, le mental est calme. Quand on commence à avoir un souffle agité, le mental est agité.
Ouais.
Le mental et le souffle, ça marche ensemble.
Et inversement, quand on a le mental agité, ça peut accélérer la
respiration. Ça accélère la respiration, les battements cardiaques, etc. Donc là, je vais emprunter un terme un peu difficile, mais que beaucoup de personnes connaissent. Quand on est en yoga, on On est plutôt en parasympathico-tonie, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est la partie du système nerveux végétatif, c'est-à-dire qu'on ne commande pas par la volonté, mais qui permet d'abaisser le niveau d'activité.
Ok.
Ok. J'ai une émotion, j'ai appris que, voilà, une mauvaise nouvelle, etc., battement de cœur, patata, je transpire, etc. Tout ça, c'est la sympathicotonie. C'est tout ce qui fait que notre système nerveux nous met dans un système, dans une attitude...
C'est les fonctions
de défense.
Les fonctions automatiques du corps.
C'est les fonctions automatiques du corps, d'accord. Et le fait d'abaisser, de ralentir son souffle, on va ralentir les battements cardiaques, on va abaisser le taux de glycémie, on va faciliter la digestion, par exemple. On va toutes ces facultés, on va pouvoir les contrôler avec notre souffle. Donc le souffle, c'est un instrument absolument prodigieux.
Et donc, ce que vous m'expliquez, c'est que grâce à la maîtrise du souffle et du yoga, on peut agir sur les fonctions automatiques du corps.
Absolument.
C'est-à-dire qu'avec des exercices de respiration, de méditation, je peux atténuer des réactions que mon corps aurait naturellement.
Absolument. Exactement. Par exemple, vous allez être allongé sur le dos, vous commencez à faire des exercices en ralentissant vos expirations, on commence par les expirations, vous allez sentir votre ventre qui fait glou, 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 glou. Ah, merveilleux. Les glandes salivaires qui se mettent à produire de la salive alors que j'avais la bouche toute sèche. Mes yeux qui se mettent à pleurer un petit peu, ça larmoie. Tout est lié au souffle. Voilà.
Vous avez ouvert il y a une dizaine d'années Yoga Attitude à Villefranche pour partager votre pratique du yoga. Comment est-ce que ça fonctionne, ce lieu
Alors, ça fonctionne bien. Depuis qu'on est sorti, entre guillemets, de la crise Covid, puisqu'on a été fermé pendant 2 ans, mais on a continué avec des vidéos. Aujourd'hui, nous sommes... Alors, à la rentrée, nous serons 6 profs de yoga... Ouais. Chez Yoga Attitude. Voilà, donc un peu tous les âges.
Et différentes pratiques, j'imagine.
Différentes pratiques. Ouais. Voilà, donc il va y avoir du... Enfin, il y a déjà, mais il continue avec le Yin Yoga, le Vinyasa Yoga. Après, j'ai nommé yoga équilibrant, yoga doux et yoga dynamique. Donc, yoga dynamique, c'est Vinyasa. C'est... pour que ça soit facilement repérable pour des personnes qui ne connaissent pas.
Ouais. C'est sûr que Vinyasa, j'aurais aucune idée de ce que ça peut être, juste
voilà.
Avec ce nom-là.
Voilà, et en plus, c'est très contemporain, parce que dans les textes du yoga, on ne parle pas de Vinyasa yoga, c'est, j'ose dire, un petit peu marketing.
Ah oui, ça fait bien de mettre un nom.
Ouais, voilà,
d'accord.
C'est tendance. Alors moi, par exemple, je déconseille à mes profs, les profs qui enseignent, d'employer des mots un peu compliqués, sanskrit. C'est bien, on les a appris, on les connaît, ça nous permet d'être plus précis dans notre enseignement. Mais l'important, c'est pas de passer pour un singe savant. L'important, c'est de transmettre quelque chose d'authentique.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a ressenti soi-même et qu'on a envie de partager.
Comment ça se passe quand on veut prendre des cours de yoga? Est-ce qu'il faut en faire 2 fois par semaine? Est-ce qu'il y a des pratiques qu'il faut suivre? Ou est-ce que c'est à la carte? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, si on veut essayer le yoga?
Moi, je conseille une pratique régulière.
Ouais.
Alors, pour ce qui concerne l'enseignement du yoga, il faut voir un prof régulièrement. Moi, j'ai toujours des profs de yoga. Voilà. J'ai mon prof fétiche à Marseille qui m'a
enseigné
et qui continue de m'enseigner. Et je pense qu'on a tous besoin d'un enseignant. Voilà. La vidéo, j'y crois pas trop.
Ouais.
Là-dessus. Je pense que c'est bien pour répéter. D'ailleurs, moi, j'ai des abonnements vidéo pour les gens qui viennent à mes cours et qui répètent. Après, j'ai d'anciens élèves qui s'abonnent à mes vidéos parce que voilà, ils se souviennent, mais on se connaît. Voilà, il y a ce côté aussi de lien.
Il faut qu'il y ait de l'humain dans la transmission.
Il faut qu'il y ait de l'humain.
Ouais.
Hein, voilà. Pourquoi je vous disais ça?
C'était sur la pratique. Comment est-ce qu'on se met au yoga?
Ah oui, voilà. Alors, pratiquer régulièrement pour soi, il y a trois choses. Il y a déjà, alors, pratiquer avec un prof, c'est important, comme on peut. Hein, une fois par semaine, c'est quand même bien.
Ouais.
Si on vient trois fois par semaine, c'est super. Mais l'important aussi, c'est de pratiquer seul.
D'accord, c'est en cours à plusieurs, mais aussi de chez soi.
Voilà, de mettre en place des petites routines. Par exemple, même 10 minutes. Voilà, quand on se lève le matin, commencer par une pratique de yoga, c'est bien. Voilà, et le soir, c'est super aussi, parce qu'on dépose tout ce qu'on a besoin de déposer avant d'aller se reposer.
Avant d'aller dormir, ouais.
Voilà. Donc ça, c'est chouette. Et puis, j'ai envie de rajouter quand même une troisième chose, parce que si on s'intéresse vraiment à l'essence du yoga, c'est bien aussi de s'intéresser au texte fondateur du yoga. Parce que c'est ce qui fait que la tradition reste authentique.
D'accord.
Hein?
C'est important, ouais, la philosophie du yoga pour comprendre la pratique et la mettre en place.
Ça donne du sens à la pratique et ça permet qu'il n'y ait pas de déviation.
Et quand il y a des textes décrits, une philosophie, etc., moi, ça me fait penser à de la religion.
Alors, la religion, c'est autre chose.
C'est une religion, le yoga? Non.
Le yoga n'est pas une religion. Hein. Le yoga est une pratique spirituelle. Il faut bien faire la différence entre spiritualité et religion. C'est différent. Hein. Dans le yoga, on est libre de penser ce qu'on veut. Il n'y a pas de... En fait, le principe de la spiritualité dans le yoga, c'est ne crois rien à ce que je te dis, expérimente-le.
Ok.
Voilà.
Très bien. Très bien. On peut venir assister à des cours de yoga attitude. Comment est-ce qu'on vous contacte? Comment est-ce qu'on découvre ça?
Alors, pour nous contacter, il y a un site qui est www.yogavillefranche.fr. On est aussi présents sur Facebook et Instagram. Le 06 31 37 74 53 pour me joindre. Et puis, venir...
Et le 21 juin, c'est la journée mondiale du yoga.
Du yoga. Et nous, on anticipe un petit peu, on fait notre journée...
la journée caladoise
du yoga, le 17 juin.
Ouais.
En plein air.
Allez.
Il va faire beau. Donc, chemin des Chartiers à... Lima,
ouais.
Lorsqu'on va en direction de la Madone, on emprunte l'avenue Générale de Gaulle et c'est un petit chemin auquel on a accès à ce jardin public.
D'accord.
Et vous trouvez toutes les informations sur le site.
Il y a des cours de 10h à midi et de 17h à 18h et on peut s'inscrire sur votre site internet.
Voilà, on peut s'inscrire sur le site internet.
Parfait. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu ce que c'était le yoga. Je découvre, j'apprends. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et très bonne journée.
Très bonne journée.
Ensemble sur Calade.
On a commencé avec le soleil, on continue avec la lune. Voici David Bowie, Moon Age Daydream. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Just walk it like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world. Keep your electric on me, babe. With your ray gun to my head.
Sur quelle aide avec ce chouette morceau Moon Age Daydream.
Vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
Ah, c'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Oui, on parle d'alimentation et de santé. Et pour ça, on retrouve notre diététicienne et nutritionniste Charline Simian. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va bien en forme ?
Tout à fait.
Bon, on a commencé une série ensemble sur la digestion, le système digestif, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. On avait parlé de la bouche, on a parlé de l'estomac, de l'intestin grêle. Où est-ce qu'on en est ?
Eh bien, on en est à la phase terminale, c'est-à-dire l'étape colique, le côlon.
Okay.
Le côlon, si vous avez déjà vu un écorché, donc je vous ai parlé des boyaux la dernière fois, on parle en général du cadre colique parce que le côlon a trois parties. Une qui remonte, qui est sur votre droite. Une qui est transverse, donc qui traverse, qui vous traverse de part en part, de droite vers la gauche. Et une descendante qui est donc sur la gauche et qui descend jusqu'à l'extrémité terminale de l'intestin, l'anus et le rectum.
Ok.
Voilà, donc on en est à cette partie-là. Alors cette partie-là, elle peut durer quand même 6-7 heures. Hein. Il faut quand même s'imaginer qu'on n'a pas vraiment parlé de temporalité jusqu'à maintenant, mais en fait, de l'ingestion à l'évacuation, il peut se passer... en moyenne 35 heures à peu près pour une digestion en fait. Alors comme on remplit et qu'on n'arrête pas, en général c'est continu, mais voilà, ça prend un temps certain. Donc quand on est malade parce qu'on a mangé un truc, c'est souvent pas le truc qu'on a mangé en dernier qui vous rend malade.
Oui, oui, oui. c'est vrai.
C'est plutôt sur les repas précédents qu'il faut chercher que le repas juste avant, quoi.
Bon. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce côlon ?
Alors, dans ce côlon, il y a énormément de bactéries, des bactéries bien évidemment bénéfiques. Hein, on pourrait les appeler probiotiques quand on en manque et quand il faut réensemencer un petit peu ce côlon et qu'il fonctionne mieux. S'il est fonctionnel, il y a énormément de bactéries qui vont aider à la fin de la digestion, notamment de tout ce qui est fibres, parce qu'il y a certaines fibres qui arrivent dans l'intestin, on a beau avoir mâché, qui arrivent dans cette partie-là et qui sont finalement constitutifs des sels et qui vont surtout amener du volume. Et ces bactéries-là vont finir de digérer un petit peu ce qu'on appelle des oligosaccharides. En fait, c'est des sucres, mais qui sont très difficiles à digérer, très longs. Donc, plus ça passe de temps dans votre côlon, plus on a de chance, entre guillemets, de pouvoir utiliser un petit peu ces sucres-là. On est vraiment sur la partie terminale, donc avec pas mal d'échanges d'eau aussi, en fonction de la densité de ce qu'il y a dans l'intestin. Il y a plusieurs choses qui se passent. Le volume va étirer la paroi qui, par réflexe, va se contracter pour faire évacuer les matières. Et puis, effectivement, en fonction de l'hydratation des matières, on va activer soit une réabsorption de cette eau, soit plutôt, effectivement, réinjecter, entre guillemets, de l'eau qu'on aurait dans notre organisme pour le liquéfier un petit peu des sels qui seraient plutôt compliquées à éliminer. Donc, vraiment, cette phase-là, c'est plutôt la phase de déchet où on n'a vraiment que ce qu'on ne sera pas en capacité de digérer, qui va être propulsé.
D'accord.
Donc voilà, on a plus ou moins de temps, on n'a pas énormément de sécrétions, on n'a pas grand-chose qui se passe ici parce qu'on est sur la partie terminale et que heureusement qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que ça veut dire que le boulot a été fait en amont,
ouais,
et qu'on a déjà bien pu se servir de tout ce dont on avait besoin, notamment en graisse, en sucre disponible, bien au-dessus au niveau de l'intestin. Et puis ensuite, on a effectivement une paroi qui est très très épaisse et très costaud au niveau musculaire, qui fonctionne plus ou moins bien. Et souvent, quand on a des alternances de transit un peu accéléré, un peu lent, c'est plutôt à cet endroit que ça se passe, avec une flore bactérienne qui peut, j'allais dire, être étouffée, mais c'est un peu ça si on a par exemple des phases de constipation avec des bactéries qui vont décéder et qui vont être moins fonctionnelles du coup. C'est le fameux siège du microbiote.
Et qu'est-ce qui peut faire que ça se passe mal, du coup, dans cette partie-là de la digestion? Je ne sais pas, est-ce que si on mange pas équilibré, ça peut
pas
être bien digéré? Qu'est-ce qui peut poser souci à ce moment-là?
Alors, en fait, vous avez raison, hein, manger déséquilibré, très riche, très pauvre en fibres, en fait, là, on est vraiment sur un substrat presque nutritif des bactéries qui constituent le côlon, que nutritif pour nous. C'est-à-dire que c'est vraiment elles qui vont se servir ce dont elles ont besoin. Ces fameux oligosaccharides leur servent plus à elles qu'à nous, en réalité. Donc, une alimentation pauvre en fibres, pauvre en nutriments, très riche en gras, très riche en sucre simple, va laisser assez peu de place pour la nourriture de ce microbiote qui est essentiel, on le voit. Il y a des tas et des tas d'études qui sont en cours parce qu'on se rend compte de l'importance de cette population bactérienne. Cette population bactérienne, en fait, elle se crée à notre naissance. Tout simplement parce qu'à la naissance, le bébé ingère un petit peu de bactéries qui proviennent de sa maman. Donc la maman ensemence un petit peu le microbiote de l'enfant. Et puis après, selon ce qui se passe dans la vie, si on a un traitement antibiotique, les microbiotes sont parfois très abîmés par ça. Et donc c'est pour ça qu'on remet des probiotiques. On a une alimentation aujourd'hui qui malheureusement s'industrialise, donc va être assez pauvre et donc ne va pas aider ce microbiote à survivre. On s'est rendu compte en faisant des analyses très poussées, notamment sur les calottes glaciaires, choses comme ça, que nos ancêtres avaient un microbiote largement plus développé et plus riche que nous. On se rend compte que les personnes qui souffrent par exemple d'obésité ont un microbiote qui est en général très appauvri. Donc on se rend vraiment compte que dans les pathologies nutritionnelles, on a aussi un lien avec la richesse et l'efficacité de ce microbiote.
Bon, très bien. Et j'ai encore une fois appris plein de choses. Merci beaucoup, Charline.
Pas de souci, c'est toujours un plaisir, Mathieu.
À très bientôt.
À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Bon, je ne pensais pas y arriver, mais j'y suis parvenu. Voici un morceau qui s'appelle Colon, signé Erwan.
Fait marcher en crabe à l'image de son pays. Depuis qu'il t'a imposé son régime alimentaire, la censure serre la ceinture, c'est le grand colon qu'on sert. Depuis qu'on sert ton colon, depuis qu'il t'a soumis, ton colon dit de concert sale colonie. L'alcoolonie, tous ces ennuis, ton colon nuit. Toute la nuit, l'alcoolonie, tous ces ennuis. Les faux cols qu'on sert la nuit, les sauvages que l'on conquiert à coups de colosses complis.
Erwan sur Kellad avec Colomb.
Expansion économique, c'est la richesse de la commune. C'est la
voix. Ensemble sur Kellad, le prof Patrick.
Ah oui, c'est l'heure de retrouver le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
On va parler du journal quotidien Le Figaro.
Bon.
Le Figaro, c'est quoi ? C'est un des plus anciens journaux français. Il date de 1826, s'il te plaît. Alors, soyons clairs, hein, il a toujours eu pour vocation, Le Figaro, de représenter la bourgeoisie française. La vraie, hein, d'accord ? Celle qui détient le pouvoir socio-politico-économique. Mais, soyons clairs, c'est aussi un journal de grande qualité. Aussi, en général, on peut considérer avec un certain respect ses papiers. En général, hein ? Une règle qui est marquée par quelques exceptions, parfois. Voilà. Un exemple d'exception qu'on va voir aujourd'hui, avec une des obsessions récurrentes du Figaro, la défense de la langue française. La langue française est menacée, messieurs, dames, vous en doutez bien. Par qui elle est menacée ? Ça, c'est une bonne question, on y reviendra. Alors, pour parler de ça, je vais utiliser une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Linguisticae, d'un petit jeune qui est linguiste, et je l'ai déjà utilisé dans le passé d'ailleurs, mais bon, j'en reparlerai. Cette vidéo s'appelle, bougez pas que je le retrouve, elle s'appelle Le Figaro en roue libre, je la mettrai dans le podcast. Dans cette vidéo, il évoque une vidéo de la chaîne YouTube du Figaro, où un distingué universitaire qui s'appelle Xavier Laurent Salvador, qui est maître de conférences en langue et littérature médiévale. Alors attention, c'est pas un linguiste, mais quand même, on va pas chipoter, il a l'air compétent, hein, d'accord ? Ouais. Eh bien, ce distingué Xavier Laurent Salvador réagit à l'introduction dans le dictionnaire de nouveaux mots de l'année, tu sais, comme par exemple vélorussion ou mégabassine. Vélorussion, j'ai jamais entendu parler, mais c'est un nouveau mot du dictionnaire. Et bien sûr, en bon journal, Le Figaro défendant les valeurs bourgeoises traditionnelles, eh bien, ce journal n'apprécie guère la nouveauté linguistique. Voilà. Ouais. Alors, le problème, dans cette vidéo de Xavier Laurent Salvador, pour Le Figaro, c'est ses arguments. Ils sont, pourrait-on dire, un peu lunaires. Alors Mathieu, tu vas tenir le rôle de Xavier Laurent Salvador et tu vas nous lire certaines citations de ce monsieur. C'est parti.
Le dictionnaire répond en fait à ce fantasme, à ce syndrome permanent qui est le syndrome de la jeune fille de 18 ans qui dicte aujourd'hui à toute une société la façon de penser, la façon de se comporter et la façon de formuler ses phrases.
Dis donc, t'as mal dormi, mon Xavier Laurent ? T'es de mauvaise humeur ? T'as abusé de l'apéritif du matin ? Non, c'est quoi ça ? Où t'as vu que les dictionnaires nous dictaient quoi que ce soit ? T'es pas obligé de les utiliser, les mots en question ? Et pourquoi la jeune fille de 18 ans ? C'est quoi cette histoire ?
Ouais.
On a une piste à suivre, là. Hein.
C'est bizarre, ouais.
On verra. Vas-y, continue, Xavier Laurent.
Le fait même que des gens ne sachent pas ce que signifient des mots comme vélorussion ou mégabassine témoigne du fait que ces mots n'appartiennent pas à un vocabulaire commun.
Oui, c'est ce qu'on appelle des nouveaux mots, Xavier Laurent. T'en as d'autres, des évidences comme ça, monsieur de la Palice ?
C'est pourquoi, d'ordinaire, le dictionnaire prend du recul sur la langue, à partir de quoi le lexicographe peut-il déterminer ce qui fait enrichissement de la langue ?
Alors ça, c'est une question intéressante, parce que là, on y vient. Ce sont les critères de choix des mots nouveaux qu'utilisent les lexicographes du dictionnaire qui énerve, qui irrite notre noble universitaire. Il préférerait sans doute qu'on utilise ses critères à lui. D'accord ? Mais comme il ne peut pas dire ça clairement, parce que c'est un argument un petit peu mesquin, hein, du genre « ouais, je ne suis pas d'accord avec leurs critères », on va lui dire « bah, t'es qu'à faire ton dictionnaire, feignant ». Eh bien, donc, le distingué Xavier Laurent va nous sortir un raisonnement bien tortueux. On t'écoute, Xavier Laurent.
C'est pourquoi la linguistique doit prendre du recul par rapport à ça, et son corpus n'est pas la langue de la société, mais la langue de la littérature.
Alors, plus loin, Xavier Laurent va même affirmer qu'il faut pour cela attendre 50 ans après l'arrivée des nouveaux mots, pour les introduire dans le dictionnaire. Bon, là, ça devient un petit peu croquignolet, hein, parce que c'est totalement faux. Je vous rappelle qu'on parle de linguistique. Affirmer que la linguistique doit prendre du recul par rapport à ça, mais t'es qui pour affirmer ça, toi ? T'es le général linguistique, Xavier Laurent ? T'es même pas linguiste. En fait, la linguistique a pour corpus la langue de la société. Donc, Xavier Laurent, tu es un gros menteur. Ok ? La vérité, c'est que la linguistique ne se limite pas à la langue utilisée dans la littérature. Et bien évidemment, elle ne va pas attendre 50 ans pour se préoccuper de l'évolution de la langue. C'est complètement crétin. Pour appuyer son gros mensonge, Xavier Laurent invoque le trésor de la langue française. C'est un travail de fond qui a été fait par le CNRS. Et donc, Xavier Laurent affirme que ce travail est fait à partir de la littérature. Alors, deux problèmes. Déjà, c'est une recherche qui a cessé depuis les années 90. Ce n'est plus mise à jour. Donc, c'est évident que tu ne vas pas trouver des mots nouveaux dedans. Deuxième problème, ce n'est pas un dictionnaire. Ce n'est pas un dictionnaire. Xavier Laurent a quand même conscience, vous en doutez bien, qu'il dit des énormités et que ça va poser problème. Donc ce qu'il a fait dans sa vidéo, c'est qu'il a été chercher d'autres cautions scientifiques, comme le regretté Alain Rey, qui passait sur France Inter, parlait langue, c'était merveilleux, et qui est décédé. Alors il lui fait dire post-mortem que l'enquête sur la langue ne passe pas par la langue courante. Alors Alain Rey se retourne dans sa tombe, ça fait boum badaboum, d'accord, et il répond post-mortem, j'ouvre les guillemets, je cite Alain Rey, « Le dictionnaire est un observatoire, pas un conservatoire. Décrire des pratiques réelles et observables n'est pas l'expression d'un mépris, au contraire. On donne une image raisonnablement juste de la vérité de l'usage de la langue, que ça plaise ou pas. » Fin de citation. T'as entendu, Xavier Laurent ? Que ça te plaise ou pas, Alain Rey enquêtait sur la langue à partir des pratiques réelles et observables.
Bien sûr. Ouais.
T'as pas le nez qui s'allonge, Pinocchio ? T'as pas honte de mentir à ce point, Xavier Laurent ? Alors, en réponse à Xavier Laurent Pinocchio, nous allons citer un linguiste qui s'appelle Arnaud Aude. Alors Arnaud reprend d'abord l'affirmation de Xavier Laurent. Vas-y Mathieu, Xavier Laurent.
Le corpus des linguistes n'est pas la langue de la société, mais la langue de la littérature.
Voilà, et Arnaud Aude, linguiste, répond « Affirmer ça, c'est faire preuve d'une double ignorance. Ignorance de ce qu'est la linguistique et ignorance de ce qu'est la littérature. Les linguistes étudient tous les mots et la littérature emploie tous les mots. » Alors bon, des contre-vérités et des stupidités stupéfiantes, il y en a encore à foison dans la vidéo pompeuse de Xavier Laurent Pinocchio. Genre, ces mots, ce ne sont pas des mots d'argot... ce sont des mots d'argot et des mots de militants. Les mots nouveaux apportés, entrés dans le dictionnaire. Mais mon gars, c'est quand même de la langue.
Ouais,
ça d'accord existe. Donc, c'est quand même un objet d'étude de la linguistique. Mais justement, cette dernière idiotie, l'histoire des mots de militants, va nous mettre sur la piste du pourquoi. Pourquoi tant d'âneries, tant de contre-vérités dans une petite vidéo du Figaro ? C'est quoi le problème ?
Oui.
Les militants. La jeune fille de 18 ans qui dicte aujourd'hui à toute une société sa façon de penser. On commence à comprendre. Si tu te souviens bien, Mathieu, on avait évoqué dans une lointaine chronique sur J.K. Rowling le fait que les normes de la société évoluent constamment. Et ça passe parfois par des luttes d'influence entre différents acteurs du corps social. Et ça, ces luttes, elles impactent la langue. De nouveaux mots peuvent apparaître sous l'action de certains acteurs de la société. Et c'est ça que Xavier Laurent Pinocchio ne supporte pas. Pas plus que le Figaro ne le supporte. C'est l'apparition de certains mouvements sociétaux qu'ont imposé à l'agenda médiatique et sociétal de nouveaux combats, de nouvelles thématiques. Alors, lesquelles ? Pour savoir lesquelles, il suffit de regarder de plus près le CV de Xavier Laurent Pinocchio. Dans la première partie de sa carrière, il se contente de produire des vrais papiers scientifiques sur sa spécialité, la littérature médiévale, et tout va bien. Sauf que les papiers de Xavier Laurent ne sont pas beaucoup cités par ses pairs. Et ça a pu le rendre triste, voire chafouin, en quelque sorte. Alors il s'est mis, depuis 2-3 ans, à écrire et à faire des émissions de télé, des interviews sur des sujets bien ciblés. Je vais citer précisément les titres de certains de ses interviews, papiers, etc. Islamo-gauchisme à l'université. Islamisme à l'université. Comment les militants décoloniaux prennent le pouvoir dans les universités. Peut-on encore montrer Mahomet dans les universités américaines et françaises. Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke. Bref, Xavier Laurent Pinocchio est un bon vieux réactionnaire à la Blanquer, prompt à utiliser des terminologies qui n'ont aucune réalité scientifique, le terme woke.
Ouais, il invente des mots aussi, lui, ça le dérange pas.
Il n'est pas le seul à utiliser woke. Pour mener son combat idéologique contre ses adversaires, et le même combat idéologique que le Figaro. Alors, après tout, pourquoi pas moi je dirais, c'est comme ça que la société évolue, c'est quand on se confronte, quand on se fight, quand on se stigmatise. Moi, ça ne me gêne pas du tout, en fait. C'est le débat démocratique. Mais c'est pas bien de mentir, Xavier Laurent. C'est pas bien de faire dire à la science ce qu'elle ne dit pas, monsieur le Figaro. Les journalistes, ils en pensent quoi de cette vidéo, monsieur le Figaro ? Tes journalistes, ils en pensent quoi ? Je suis pas certain qu'ils sautent de joie en la regardant. Parce qu'il est probable que tes journalistes, ils ont pas oublié ce qu'est la déontologie du journalisme. La déontologie, à la base, il y a quoi ? Ne pas transmettre intentionnellement des contre-vérités scientifiques. Puisque tu te places sur ce terrain-là, monsieur Le Figaro, alors ok, allons-y et concluons en chanson.
Merci beaucoup, prof Patrick, pour ce cours de linguistique.
On a bien rigolé. Bon, à plus.
Et j'espère découvrir dans le prochain dictionnaire le mot quacoubé, qui a été inventé par les jeunes.
Pourquoi pas.
On ait au moins une définition et une explication. On la trouvera dans le dictionnaire.
On la trouvera.
Ensemble sur Calade.
Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à 12h12 pour un tout nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. D'ici là, vous retrouvez cette émission en réécoute sur radio-calade.fr et rediffusion demain matin, comme chaque jour, à 10h. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous.
Ensemble sur Calade.